C'est bon, à toi, on va écouter un morceau de musique de Jean-Sébastien Bach. À entendre le psaume 133 en entier. Oh, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver entre frères. C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. Chers amis, frères et sœurs, comme tout à chacun, je fais mienne la joie du psaume 133, car j'espère que c'est pour tous un vrai plaisir de se retrouver ensemble, malgré des circonstances, hélas, qui nous séparent géographiquement, mais qui sont réduites à néant grâce à l'Esprit qui nous unit. Soyez donc les bienvenus, toutes et tous, quelle que soit votre appartenance, pour ce jeudi de Pâques, qui nous rattache au souvenir de l'Exode, bien sûr, au dernier repas des Hébreux en Égypte, au soir du départ, avec l'agneau qui sauve, et puis au premier repas dans le désert, après la traversée de la mer des joncs, avec la manne, qui est un véritable don de Dieu. Voilà, que l'esprit de Pâques, esprit d'aventure, de la vie et de l'espérance, soit sur vous pour ce moment passé ensemble. Et je vous invite à avoir un petit moment de prière. Père, au moment du dernier repas, Jésus a prononcé la bénédiction sur le pain et le vin. Mais au-delà du symbole, la vraie nourriture, c'est ta parole. Elle est comme l'eau de la source qui rafraîchit et comme le pain de la multiplication qui a rassasié la foule. Père, par ton esprit, ouvre nos cœurs au témoignage de ta parole. Amen. Et je vous invite à entendre la parole de Dieu, le témoignage après le psaume 133 qui nous a introduit ce moment de culte. Je vous invite à entendre donc dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 20. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et déclara solennellement « en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandaient de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon, Pierre lui fit signe, demande de qui il parle. Le disciple se pencha alors vers la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et la donna à Judas Iscariote, le fils de Simon. C'est à ce moment alors qu'il lui avait offert cette bouchée que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Et puis cet autre passage de l'évangile de Jean qui précède la trahison de Judas, dont je dirai un mot évidemment. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, leur de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens, qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau. Il prend un linge, dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre et lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne peux pas le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Et Pierre lui dit « Me laver les pieds, à moi jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne pourras pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux, si du moins vous le mettez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture, celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi a levé le talon. Je vous le dis à présent, avant que l'événement n'arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et donc, je vous invite à revenir sur ces deux passages qui ne sont pas sans mystère, et en particulier cette trahison de Judas, qui pose bien des problèmes aux historiens, aux exégètes, sans parler évidemment de ce lavement de pieds qui est tout à fait, je dirais, unique dans les évangiles et un petit peu décalé, dirions-nous, aujourd'hui. Alors, ce soit donc quand même l'évangile de Jean, dont on a lu les deux passages, là, du repas ou les synoptiques. Le dernier repas de Jésus nous dit la dimension du royaume par le sens du partage et du repas. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important, le repas, au Moyen-Orient, même encore, et même dans les pays maghrébins, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, c'est vraiment de la fraternité qui s'exprime. C'est un geste extrêmement important. Alors le repas aussi c'est important parce que c'est manger, c'est quelque chose de vital. Quand j'ai écrit ces lignes, je pensais évidemment aux centaines de milliers de personnes dans ce monde, aux millions de personnes dans ce monde qui ne mangent pas à leur faim. Je ne parle pas de ceux qui mangent trop, mais de ceux qui ne mangent pas assez ou qui mangent mal, avec des carences alimentaires. Donc manger aussi, c'est aussi un acte social. En général, on mange avec des amis. Lorsqu'on va à la cantine de l'entreprise, par exemple, on se met à table avec ceux qu'on connaît bien, avec lesquels on est le mieux, évidemment. Et on invite chez soi, en général, des gens avec lesquels on a vraiment envie de partager quelque chose. Voilà, il y a tout ça dans le repas, des gestes psychologiques, sociaux, etc. Lorsqu'un enfant tout petit quitte le biberon habituel pour être assis à la table des grands, c'est, paraît-il, disent les psychologues de l'enfance, un moment extrêmement important dans le temps de la croissance du tout petit. Voilà. Alors il y a ce repas pascal qui est là, qui apporte tout cela évidemment, et peut-être plus encore évidemment, puisqu'il est présidé par Jésus lui-même. Alors moi, ce qui m'a frappé dans ce dernier repas, c'est que ce repas est encadré par deux épisodes. Il y a la trahison de Judas. La trahison de Judas qui précède le repas, que Jésus maîtrise, entre guillemets, je dirais, puisque dans le premier passage que je vous ai lu, et que j'aurais dû vous le lire en deuxième d'ailleurs, eh bien, Jésus mentionne bien que, bon, il sait très bien que c'est Judas, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le deuxième morceau qui encadre ce repas, c'est pas la trahison qui a eu lieu avant le repas, mais c'est le reniement de Pierre qui aura lieu après le repas, quand Jésus sera arrêté. Et on est coincé avec ce repas entre ces deux questions. La première nous semble franchement ignoble. La trahison de Judas, je veux dire, pose un individu qui n'a jamais eu les faveurs de l'humanité. Hein. Je veux dire, parce qu'à preuve du contraire, on n'a pas de petit garçon qu'on va appeler Judas. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu comme les enfants dans les années 40, à partir de 45-50, qui s'appelaient Adolphe, il n'y en avait pas beaucoup. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le prénom est porteur d'une ignominie. Mais il est ignoble parce que trahir pour de l'argent, évidemment, c'est quelque chose d'incroyable, d'autant plus que cette trahison de la part de Judas et la trahison d'un très proche, qui est le trésorier du groupe, comme le dit le texte, hein, l'évangile de Jean le relève à plusieurs reprises, donc c'est quelqu'un en qui on a confiance normalement. Alors, il y a une autre hypothèse, évidemment, c'est que Judas aurait vendu Jésus, l'aurait trahi, de manière un peu inconséquente, incroyable, pour d'autres motifs que l'argent, la cupidité, qui seraient peut-être des raisons politiques. Judas voyant Jésus un peu l'équivalent d'un social traître sur lequel il avait compté pour faire une révolution, hein, qui arrivera quelques années plus tard d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, voilà, voyant que ça n'arrivait pas, Judas aurait voulu précipiter des choses. C'est une thèse qui a couru dans les années 60, voilà. Mais dans tous les cas, il y a aussi cette idée que, quand même, eh bien, la trahison de Judas fait partie peut-être du plan de Dieu, parce que sans cette trahison, il n'y aurait pas eu l'arrestation, ni la passion, ni la résurrection. On peut toujours dire ça. Mais dans tous les cas, cette trahison reste quand même quelque chose d'éminemment mystérieux qui nous dépasse. Il faut dire que le mal nous dépasse bien souvent. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la grande prêtrise à l'époque et les autorités de l'époque cherchent à faire mourir Jésus, qui là aussi une sorte de mystère, comment faire mourir le juste, celui qui, autour de lui, a essayé d'aider tous les gens qu'il a rencontrés. Alors Pierre, lui, c'est autre chose. Pierre, c'est le fidèle des fidèles, évidemment. Il renie, il va renier complètement, ou alors il comprend pas très bien ce qui se passe. Et cette forme du reniement est quand même quelque chose d'assez terrible, puisque là, vraiment, on est un peu avec le chef d'équipe après Jésus qui va se défiler, si je puis dire, en laissant Jésus tout seul. Alors Judas et Pierre, ils forment un couple de l'humanité finalement, un couple humain, bon, qui ne comprend pas Dieu et qui ne comprend pas très bien Jésus. Alors la place du dernier repas de Jésus, elle est là au centre de cette problématique entre la trahison et le reniement. Elle est au centre du mal, un peu comme le signe de quelque chose d'autre qui se passe. Le mal, c'est le calcul, c'est la politique, c'est la politique politicienne, c'est l'argent, c'est la peur, hein, c'est tout cela. C'est comme si le mal était attaqué au centre même. Il y a une sorte de oui mais. Oui, le mal, il est là, incontestablement, on va pas dire le contraire aujourd'hui. Oui, mais il y a le royaume. Le royaume qui se discerne à travers, je dirais, tout ce mal qui monte là dans la Passion, dans la Semaine Sainte, tout au long de la Semaine Sainte, de la Semaine Sainte. Il y a le royaume qui se discerne petit à petit et qui renverse les valeurs. Surtout, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on a du mal à saisir bien ce qu'est le royaume. Alors Jean le dit à sa manière. Il le dit à sa manière en racontant le dernier repas de Jésus, non pas par le signe de la Sainte Cène, du pain et du vin, mais par le signe du lavement de pieds. C'est un moment extrêmement important et certaines communautés chrétiennes, comme les Ménonites de Châtenay-Malabry, par exemple, célèbrent ce moment par un lavement de pieds en s'accueillant les uns les autres, par exemple. Mais c'est quelque chose que tous les chrétiens du monde pourraient faire. Après tout, pourquoi pas? Alors Jésus, il est dit dans ce lavement de pieds, que dans cette histoire, que Jésus aime. Qu'il aime ses disciples, ben, il les aime tels qu'ils sont, en fait. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il les aime jusqu'à l'extrême, hein, c'est ce qu'il dit. Alors, est-ce que c'est l'extrême jusqu'à la mort, je dirais, temporelle? Tant qu'il est vivant, il les aime, bon, jusqu'à la mort, ou est-ce qu'il les aime à l'extrême, c'est-à-dire au maximum de ce qu'on puisse aimer? Mais dans tous les cas, il y a une force de l'amour qui s'exprime dans cette formule. Il aime ses disciples. Il aime ses disciples avec la trahison, avec le reniement, avec l'abandon des disciples qui suivra, et ainsi de suite. Et il les aime malgré ce qu'il sait, puisqu'il sait que c'est l'heure de la passion, l'heure de passer de ce monde au Père, comme dit le texte. Et même Judas qui est là avec Satan qui est entré en lui. Alors pour ça, pour le signaler, pour le signifier, Jésus se défait de son manteau. Il défait de son manteau, et ça c'est un geste prophétique, comme on dit. Vous savez que les prophètes ont des gestes, hein. Ils n'ont pas que des discours, mais ils ont des accessoires parfois, des cornes pour signifier la force, par exemple. Le manteau, évidemment, fait partie de ces accessoires. Et Jésus se défait de son manteau. C'est-à-dire qu'il n'est pas le roi des rameaux. Hein. Lorsque Jésus est entré en Jérusalem, il avait les manteaux qui étaient sur la route, là, pour l'accueillir avec les branchages. Il a été écrit comme un roi. Et puis le manteau, c'est un signe royal. Hein, on met le manteau sur les épaules du roi. Hein, et ça, c'est quelque chose qui dure encore. Regardez les tableaux des grands rois qui ont précédé notre époque, et même ceux qui sont encore rois, ils ont souvent le manteau royal qui est sur leurs épaules. Hein, et Jésus, non. Il n'est pas du tout comme ça. Il se défait du manteau, c'est-à-dire se défait de cette royauté. Il n'en veut absolument pas. Et en se défaisant du manteau, il se fait plus pauvre qu'un pauvre. Il se fait plus pauvre qu'un pauvre parce que dans le Lévitique, dans la loi, dans la Torah, il est interdit de dépouiller un pauvre, même s'il a des dettes. Hein, il est interdit de le dépouiller complètement. C'est une obligation, lui laisser toujours son manteau, parce que ce manteau le protège d'une part et couvre sa nudité. Bon, donc là, Jésus qui se dépouille de son manteau se fait plus pauvre qu'un pauvre finalement. Il est là, il est dans la situation en fait d'un esclave nu, hein, puisque il se ceint d'un linge et puis il va s'essuyer avec ce linge après. Donc il va essuyer pardon les pieds de ses disciples avec ce linge. Donc il est là, il est nu, il lave les pieds. Et c'est quelque chose qui est tout à fait incongru. C'est incongru. C'est inimaginable, en fait. Nous, on est habitués à ce texte. Donc, on n'en voit pas finalement l'impact et la force. Or, le geste de Jésus, je dirais, pardonnez-moi l'expression, est un geste complètement dingue. Je veux dire, mais complètement hors norme. Je veux dire, incompréhensible. C'est d'autant plus incroyable que Jésus est le maître. Et jamais, jamais, mais au grand jamais, un maître. Un homme libre, ça, n'aurait lavé les pieds de qui que ce soit. Je veux dire. Alors l'épouse pouvait laver les pieds du mari, les enfants pouvaient laver les pieds du père, par exemple, mais jamais, jamais au grand jamais, le maître, le père, n'aurait lavé les pieds. Dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Jésus fait ça et dans cette situation de l'esclave complètement nu, c'est-à-dire réduit à zéro, finalement à rien? Eh bien, c'est un signe d'humilité d'abord, évidemment. Eh bien, Jésus, c'est le serviteur, hein, qui est là dans l'humilité, qui va jusqu'au bout du service, finalement. C'est le signe aussi d'un Dieu qui est un Dieu de l'humilité. C'est pas un Dieu de la force. C'est pas le Dieu des rameaux. Là, on est dans l'anti-rameau, comme je l'ai dit à propos du manteau que Jésus laisse tomber. Et c'est un signe d'accueil aussi. On accueillait les gens par le lavement de pieds parce que les gens allaient à pied finalement avec des sandalettes, voire pieds nus pour certains, sur des routes qui étaient plutôt poussiéreuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc laver les pieds, c'était vraiment un signe d'accueil pour mettre les gens véritablement à l'aise. C'est aussi un signe de purification, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le texte, plus ou moins. Donc ce geste de laver les pieds a de multiples significations qui sont extrêmement intéressantes. Pierre ne comprend pas. D'abord, il refuse, évidemment, parce que comment accepter que celui qu'on voit comme le maître puisse être aux pieds hein, des serviteurs, si je puis dire, hein, pour leur laver les pieds, c'est-à-dire renverser complètement la situation. C'est-à-dire, une fois qu'il a l'air de comprendre, il devient matérialiste, il veut aussi qu'on lui lave la tête et le corps entier, voilà, pour être dans une purification rituelle, mais qui n'est pas une purification spirituelle. Pierre reste matérialiste, il ne vit pas tout à fait dans la foi, il comprend pas tout à fait le geste, il comprendra plus tard, certainement. Jésus était esclave au service des hommes. Et c'est ça qui est intéressant. Et Jésus qui porte Dieu en lui par l'esprit et nous dit finalement que Dieu est au service des hommes. En face, Judas, il y a Judas et les hommes au service des puissances. Et il y a ce couple qui se forme, Judas-Jésus, signe d'un couple qu'on retrouve au fil de l'histoire. Finalement, l'amour est opposé au mal, Dieu est opposé à Satan, le service est opposé à l'exploitation des hommes, l'accueil, à l'exclusion, la violence à la paix, et ainsi de suite. On verra toujours qu'il y a, comme diraient les orientaux, le yin et le yang, hein, un pôle et un autre, le plus et le moins, et ainsi de suite. Et on retrouve cela dans ce couple, Jésus-Judas face à face, Judas habité par le diable. Alors Jésus va aller jusqu'au bout. Il invite à vivre le service des autres, la solidarité. Jésus, nu aux pieds des disciples, eh bien, c'est Dieu qui apparaît dans toute sa force. Et c'est ça qui, au niveau théologique, est fondamental. Dieu apparaît dans toute sa force. Car cet abaissement est la seule force que le mal ne peut accomplir. C'est la seule force que le mal ne peut accomplir. Le mal peut tout faire, mais il ne peut pas s'abaisser à être rien du tout pour servir les autres. Il ne peut pas être porteur de l'amour jusqu'à l'extrême, comme dit le texte. Et c'est là qu'on voit que Dieu est Dieu. Dieu a créé le monde, Dieu a accompli certains miracles pour les Hébreux. On voit ça dans la première alliance. Dieu, par intermédiaire de Jésus, guérit des hommes et ainsi de suite. Voilà, Dieu se donne entièrement. Et ça, le diable ne peut plus le faire. Ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas être porteur de l'amour, de l'humilité, du service, jusqu'à l'extrême, comme dit le texte, comme Jésus le fait. Et ça, c'est absolument fondamental. De fait, quand Jésus annonce la suite, l'événement, il se révèle comme Dieu. D'ailleurs, il dit par deux fois dans le texte que j'ai lu, je suis. Je suis, c'est-à-dire que la formule grecque du je suis fait référence à la formule hébraïque de Yahvé. C'est la traduction d'Yahvé, je suis égoïmi en grec. Et donc, c'est intéressant parce que effectivement, à ce moment-là, Jésus dit Dieu finalement. Dis-moi Dieu d'une certaine manière. Jésus est le maître. Il est le maître et paradoxalement, il est le serviteur. Hein, il est celui qui, parce qu'il est le serviteur et par ce service, nous montre le chemin, la vérité et la vie, pour reprendre une expression johannique. Jésus, c'est la parole qui révolutionne le monde finalement, qui fonde une nouvelle manière d'être, qui est le service. Servir non pas par obligation ou par la loi, évidemment. Hein, mais ou alors pour obtenir le salut, je ne sais pas, ou vouloir être parfait, j'en sais rien, ou éviter le purgatoire ou autre, mais on sert dans la liberté, on sert dans une sorte d'élan, un élan qui est porteur d'enthousiasme, de joie, que sais-je encore. Et tout ça parce qu'on sait par ce texte, par d'autres d'ailleurs, que le maître est le serviteur. Partout dans le monde, eh bien, devrait réaliser cette révolution qui est une véritable conversion. Parce que le christianisme a un petit côté révolutionnaire et peut-être même un petit peu anarchique. Je m'excuse pour ceux qui sont des partisans de l'ordre, mais il n'empêche que la réalité est là et que ce texte du maître qui se fait serviteur et qui aime jusqu'à l'extrême est un renversement de toutes les valeurs que nous portons en nous, de gloire, de grandeur, de comptabilité, que sais-je encore. Alors le texte dit, vous serez heureux. Vous serez heureux, c'est ce que dit l'évangile de Jean, oui, heureux de partager le pain et le vin, heureux de partager la vie, de rencontrer, de raconter, heureux d'accueillir, et surtout heureux d'aimer, et d'aimer jusqu'à l'extrême. Amen. Et je vous invite à entendre le psaume 138 qui sera chanté. Voilà, nous allons partager la Sainte Cène, puisque nous sommes le jeudi saint, évidemment, et tout à fait logique qu'on puisse s'inscrire comme cela dans le continuum de tous ces repas qui ont été pris à la suite de ce dernier repas de Jésus jusqu'à maintenant. Et on fera comme on a fait la dimanche dernier, je dirais la prière d'introduction avec l'institution l'épiclèse, et nous partagerons le pain et le vin ou le jus de raisin, chacun chez soi, évidemment. Hein, on espère que l'Esprit Saint traversera les distances et les murs de nos pièces pour venir nous atteindre au cœur. Voilà, mais j'en suis persuadé. Bien sûr, évidemment, c'est pas la distance qui compte, mais c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes, évidemment. Voilà. Donc, je vous invite à avoir un moment de prière avant la lecture de l'institution. Père, la scène, c'est une grande fête. En ces temps de Pâques, nous associons à notre prière le monde juif qui célèbre en ce moment la Pâque, la sortie d'Égypte. Pour les uns et les autres s'exprime dans ce repas la liberté que Dieu nous offre, la fraternité autour de la table, l'amour dont le monde a besoin. Par ce partage du repas, que ton esprit rejoigne nos esprits et irrigue nos âmes. Puissions-nous vivre à travers ces gestes simples du partage la dimension de l'œcuménisme, de la fraternité avec le monde, et par-dessus tout, puissions-nous réaliser par les signes du pain et du vin partagés que Dieu est présent dans ce monde pour tout un chacun, quelle que soit sa manière de vivre la foi et quelle que soit sa manière de vivre, même s'il n'est pas croyant. Amen. Alors je reste dans l'évangile de Marc comme dimanche dernier pour rappeler à nos têtes blondes, comme on dit, à nos catéchumènes, qu'ils sont invités à lire cet évangile. Donc voici ces paroles d'institution au chapitre 14, versets 22 et suivants dans l'évangile de Marc. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Il leur donna et il dit, prenez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, j'en ai plus, je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Père, nous sommes réunis les uns les autres autour de ta présence. Nous sommes réunis par ton esprit pour vivre ce moment de partage, de solidarité, un moment dans lequel nous associons tout particulièrement celles et ceux auxquels nous pensons que nous pouvons te nommer, évidemment. Nous prions pour que ce monde puisse être un monde de partage et de justice. Et puis, à travers ce pain et ce vin qui sont là devant nous, nous prions pour que ton esprit soit au cœur de nous-mêmes, pour que nous puissions bien réaliser que le royaume est la réalité d'aujourd'hui, malgré la présence de l'adversité et du mal, malgré les souffrances, les injustices, les bêtises et les inconséquences des hommes. Oui, donne-nous, par ce pain et ce vin, la possibilité de réaliser que le royaume est une réalité, et non pas une chimère, un rêve, et que cette réalité nous pousse à aller plus loin, pour qu'ensemble, les êtres humains puissent être heureux dans la justice et dans l'espérance. Amen. Alors, le pain qui est là devant nous et que on partage symboliquement, peut-être avec ceux qui sont autour de vous, mais dans tous les cas, nous partageons en l'esprit, c'est le signe de ce Jésus-Christ qui s'est donné pour que le monde vive. Et puis l'amour, c'est comme ça. L'amour a cette particularité, c'est que on peut le diviser et reste toujours constant. Je pense, pour donner un exemple, à une mère de famille qui a un premier enfant et qui l'aime, il y a un deuxième qui arrive, elle aime toujours cet enfant, ce deuxième enfant comme elle a aimé le premier, et un troisième arrive, et ainsi de suite, elle aime tous ses enfants d'un même amour, avec une même intensité. C'est que là, c'est à ce genre d'exemple qu'on peut voir que l'amour peut se diviser à l'infini en restant constant. Voilà. Et puis, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versée pour la multitude. C'est le signe d'une alliance qui est sans cesse renouvelée. Ce vin dans le royaume sera toujours un vin nouveau, comme le dit le texte de Marc. Prenez-en, partagez, partagez symboliquement, spirituellement. Soyez associés à ce partage. C'est le partage qui nous dit le royaume, l'espérance, la justice et l'amour. Amen. Et je vous invite à, pendant ce partage, à entendre un vieux cantique que certains ont peut-être en mémoire, c'est Debout Sainte Cohorte. Merci pour ce moment de partage, cette unité qu'il y a autour de ta personne par ton esprit. Merci aussi pour ce cantique qui date un peu, certes, mais qui dit une foi, peut-être un peu triomphante, mais une foi de combattant pour la justice, pour la paix, pour que l'amour triomphe dans ce monde. Merci pour ce dernier repas qui nous dit le royaume, avec cette phrase qui nous dit que tu nous aimes jusqu'à l'extrême et que tu es toujours là pour nous servir, comme un esclave sert son maître, alors que nous voulions nous-mêmes te servir. Oui, Père, merci pour tout cela et plus encore. Avec toutes les églises chrétiennes et aussi avec les juifs qui fêtent Pâques en cette soirée en même temps que nous, avec les croyants et les athées. Père, nous rendons grâce pour celles et ceux qui ont été guéris ces jours-ci. Mais les autres, c'est un souci que nous portons et demandons l'aide de l'Esprit pour eux, en particulier les gens âgés, isolés, ou encore les malades admis dans les hôpitaux pour les soins autres que ceux résultant de la pandémie. Ils sont l'objet de nos prières eux aussi. Partout dans le monde, ceux qui luttent pour soulager la souffrance et la misère ont une place dans nos pensées et dans nos prières. Que le monde ne sombre pas dans le désespoir, la peur, l'idolâtrie ou quelque forme d'intégrisme. Et que tes églises soient comme des veilleurs, attentives, ouvertes au monde, porteuse d'espérance, signe de ton amour et de ta grâce. Et c'est dans la certitude du salut, d'un salut pour tous, dans la lumière des signes de ta présence, que nous te remettons notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'allais vous dire de vous lever pour la bénédiction, parce que je suis complètement dans mon culte là, et je vous imagine présent devant moi. Ça répond un peu à la question de beaucoup d'entre vous qui me disent, mais comment tu fais pour présider le culte alors qu'il n'y a personne devant toi? Mais si, vous êtes tous présents, vous êtes bel et bien présents devant moi, bien évidemment, sinon je n'arriverai pas à dire tout ce que je vous dis, me dire. Bon, encore que je vous dis pas tout, il y a tellement de choses à dire sur ces textes, et il y a tellement de choses qui m'échappent. Mais enfin, restez tranquillement là où vous êtes pour vivre la bénédiction. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Avec vos défaillances, avec peut-être vos trahisons et peut-être vos reniements, avec vos questions et vos doutes, avec votre foi, avec vos engagements aussi, avec toutes celles et tous ceux auxquels vous pensez. Oui, tous ensemble, recevez la bénédiction. Recevez cette bénédiction qui vient du fond des âges, qui vient d'un temps qui nous dépasse infiniment, d'une éternité qui nous enveloppe. Recevez la bénédiction d'un Dieu humble, un Dieu de justice, de paix, un Dieu qui nous appelle à la vie et à l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Évidemment, et puis j'espère vous voir demain. Vous voyez, ça revient naturellement. J'espère vous retrouver demain sur ces ondes à 19 h.